À 18h19, l'interview du dimanche soir sur Europe 1. 16 départements touchés donc par ces nouvelles mesures depuis ce week-end. D'autres régions pourraient être concernées dès la semaine prochaine. Avec nous ce soir en direct, Bruno Lina, professeur de virologie aux Hospices Civils de Lyon et membre du conseil scientifique. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous ce soir. On peut parler d'épée de Damoclès sur plusieurs régions de France ce soir, et lesquelles ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dynamique épidémique en cours qui est liée notamment à la circulation plus importante du variant britannique qui entraîne une augmentation des risques de transmission. Donc on voit qu'on a une augmentation du nombre de cas partout en France, mais on l'observe aussi partout en Europe. Et de fait, ça nous met dans une situation un petit peu plus fragile par rapport à l'équilibre dans lequel on était arrivé. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'on appelle les taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes infectées par niveau de population, eh bien, partout en France, ça augmente. Donc, il y a une certaine épée de Damoclès, effectivement.
On en parlait dans le journal de 18h à l'instant. Il y a certaines régions qui sont particulièrement visées, je pense à la région que vous connaissez bien, celle de Lyon.
Oui, mais de toute façon, c'est très mathématique. Hein. C'est-à-dire que ça fait partie des départements où le taux d'incidence est le plus élevé. Donc on sait qu'il y a eu un seuil de déclenchement qui s'est fait à un certain niveau. Alors on n'y est pas encore, mais si la dynamique de l'épidémie reste sur le rythme qu'elle a, eh bien on risque de se retrouver à court terme dans des niveaux de circulation qui imposera des actions supplémentaires.
Et quelles sont les cibles justement ? Quelles sont les régions concernées ? Lyon, le Var, il y a d'autres départements, d'autres secteurs ?
Oui, alors c'est essentiellement des départements qui sont... Il y a un gradient ouest-est. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les départements de l'Est sont plus touchés que le département de l'Ouest. Hein. Quand vous regardez c'est les courbes d'incidence, elles sont pas tout à fait au même niveau en fonction de la région. Il y a aussi un gradient nord-sud avec peut-être aussi une circulation un peu plus importante sur le périmètre méditerranéen. Mais il y a plusieurs départements. J'ai pas la liste exhaustive en tête, mais il y en a aussi en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a aussi dans le Grand Est. Donc on voit que globalement, de façon assez systématique, premièrement, il y a une augmentation du nombre de cas. Deuxièmement, certains départements sont au-dessus de 250 cas pour 100 000, ce qui est un seuil et qui doit se lire aussi à la lumière de ce que l'on voit par rapport au rythme des hospitalisations et le taux d'utilisation des lits en réanimation. Et c'est ça qui doit être l'élément déclencheur d'action additionnelle.
Mais vous nous dites clairement, professeur, ce soir, que d'autres régions vont être touchées, donc inévitablement.
Alors, inévitablement, c'est toujours pareil, c'est très difficile de vous donner à la fois un calendrier et puis des échéances. Hein.
Bien sûr.
Mais en tout état de cause, si dans ces régions-là, dans ces départements-là, dans ces villes-là, il n'y a pas une certaine prise de conscience de la part de l'ensemble de la population qui est de dire, on a eu un peu de laisser-aller. Alors, il y a des mesures qui sont prises par tout le monde. On voit à quel point le port du masque se fait, on voit à quel point il y a beaucoup de gens qui respectent quand même des mesures d'hygiène et mesures de distanciation. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant parce que ce variant britannique a changé la jauge. On est avec un niveau d'exigence sur l'utilisation de ces méthodes qui ont réussi à freiner de façon assez performante les anciens lignages. Aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes. Il faut les renforcer. Et on voit, enfin bon, de temps en temps, on voit des groupes de personnes sans masque, on voit des comportements un petit peu d'attroupement dans certaines situations. Et ça crée des situations à risque qui est un risque collectif. Et il faudrait juste arriver à enclencher cette méthode supplémentaire pour pouvoir se protéger tous.
Professeur Lina, justement, je voulais vous faire réagir. On en parlait dans le journal de 18h. Ces images ubuesque d'un carnaval sauvage à Marseille, 6500 personnes dans les rues de Marseille, sur la Canebière, sans masque pour certaines. Vous dites quoi ? Elles vous inspirent quoi ce soir, ces images ?
De l'incompréhension. De l'incompréhension parce que tout le monde veut sortir de cette pandémie, de cette crise sanitaire. On voit à quel point ça pèse sur tout le monde et le poids est considérable. Mais là, on a l'impression que finalement, on se donne le bâton pour se rebattre.
Bien sûr.
Parce que c'est typiquement ce genre de réunion qui vont entretenir l'épidémie, qui vont entraîner une augmentation du nombre de cas et qui vont faire que cette crise sanitaire va durer plus longtemps. Donc si on veut être cohérent avec soi-même, faisons un effort. Et là, pour le coup, cette troisième phase de circulation du virus, on a de très bonnes chances pour que ce soit la dernière qui nous impacte à ce point-là. Donc essayons de la gérer de façon à l'amortir au maximum, de façon à ce qu'on sorte très vite de cette crise.
Bruno Lina en direct ce soir sur Europe 1, membre du Conseil scientifique. Ce confinement ouvert, comme le dit l'exécutif, c'était la bonne stratégie, c'était l'unique stratégie selon vous ?
C'est une stratégie qui est axée sur une donnée, qui a été retrouvée dans une étude qui a été publiée récemment, qui s'appelle ComCore, qui montre que
le virus circule moins lorsqu'on se fait moins à l'extérieur.
Se transmettent moins à l'extérieur, ouais. Mais malgré tout, je vous parle de comportement, hein, quand on dit se transmet moins, ça ne veut pas dire que ça ne se transmet pas, et il y a aussi le fait qu'on a identifié des espaces où cette transmission se fait plus qu'avant, et en particulier dans le périmètre familial, il y a des repas avec trop de monde, sans précaution. Il y a aussi dans le domaine professionnel, aujourd'hui, une baisse de la vigilance avec des chaînes de transmission qu'on observe clairement dans des entreprises où le télétravail n'est pas assez utilisé. Donc c'est ça les leviers. On se rend compte que finalement, les transmissions, elles se font aujourd'hui beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et un choix a été fait par l'exécutif, que je ne commenterai pas, qui a été de s'orienter plus là-dessus que sur le reste. Donc est-ce que ça va être suffisant ? Je ne sais pas, on va voir. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de décliner cette stratégie, même en dehors du signal du confinement tel qu'il est décrit ? Peut-être que ça peut être bien de le faire par anticipation dans les autres régions.
Bruno, on voit bien aussi que le ministre Blanquer ne veut surtout pas fermer les écoles. L'Institut Pasteur dit pourtant que la contagion viendrait des collégiens, des lycéens. C'est pas une aberration, c'est pas une vraie question finalement.
Non, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est une approche globalisée. C'est-à-dire que vis-à-vis des écoles, des collèges et des lycées, on est en train de mettre en place un système qui devrait être un système de surveillance permettant justement d'identifier les collégiens, les lycéens ou les scolaires qui seraient contaminés. Vous savez que on a beaucoup travaillé sur les prélèvements salivaires. L'idée est de monter des stratégies de prélèvement itératif, simples à réaliser, non traumatisants, qui permettraient de façon sensible d'identifier les élèves qui seraient infectés, de façon à les sortir du circuit. La deuxième chose, on sait à quel point la scolarisation des élèves est fondamentale pour le long terme. Donc, à tout prix, on a toujours dit qu'il était nécessaire de maintenir les écoles ouvertes et que le niveau de transmission dans les écoles est probablement très en dessous de ce que l'on observe dans certaines entreprises. Donc, y a une logique à essayer de laisser les écoles ouvertes et les lycées et les collèges. Il y a un travail à faire sur les universités aussi. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des chaînes de transmission qui s'installent dans ces établissements. Il faut qu'on lutte pour éviter qu'elles se dispersent. Et de nouveau, c'est un effort collectif où il faut que chacun aille se faire tester à partir du moment où il a des symptômes, mais surtout qu'il ne vienne pas lorsqu'il sait qu'il est malade en attendant le résultat. Parce qu'il y a encore un bon nombre d'infections qui sont documentées à partir de personnes qui disent « Ah oui, j'ai fait faire le test, mais je viens travailler quand même parce que je n'ai pas le résultat. » Et ça, ce n'est pas logique. Ça, il ne faut pas le faire.
Une toute dernière question, professeur. Vous êtes pour une vaccination massive. On entendait Anne Hidalgo, qui était l'invitée d'Europe 1 ce matin, dire « Voilà, il faut vraiment passer à cette vaccination massive. » C'est la seule issue aujourd'hui pour passer un été tranquille ?
L'immunisation par la vaccination est ce qui va nous permettre de sortir plus rapidement de cette crise sanitaire. C'est très clair. On a besoin d'avoir un taux de vaccination élevé pour que derrière, l'immunité collective que l'on aura à la fois par la vaccination et les personnes qui auront guéri de l'infection Covid, eh bien, nous protège tous, puisqu'on sait qu'au-delà de 60 à 70%, à ce moment-là, le virus aura beaucoup plus de mal à circuler et donc on sera dans une logique de décroissance du nombre de cas. Et le R0 sera systématiquement inférieur à 1. C'est vers ça qu'il faut tendre. Après, ça, on peut pas faire de l'incantation avec des vœux pieux, parce que il faut qu'on ait les vaccins pour faire ça. Mais il est clair que toute personne qui est susceptible de se faire vacciner devrait y aller, et le plus rapidement possible.
Toujours très clair, le professeur Bruno Lina, ce soir en direct sur Europe 1, membre du Conseil scientifique. Grand merci à vous, professeur. Merci.